Des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous. Comment allez-vous, Clotilde Saye au micro de Canal M pour vous présenter cette émission des livres plein les oreilles. 12 janvier 2017. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons retrouver Nicole Trudeau qui nous parle d'un livre qui s'appelle Le Mal Noir. En seconde partie, le bénévole du jour sera Gilles Dupuis qui nous parle d'un livre qui s'appelle Je veux croire au soleil de Jacques Semelin. Il sera question d'une personne aveugle justement qui nous fait part de ses sensations. Comment vit-on avec une cécité totale? L'extrait du jour, eh bien, ce sera consacré à mon invité du jour qui est déjà en studio et c'est Joanne Fontaine. Bonjour Joanne.
Salut.
Un extrait de Hop, la vie, un livre sorti sur papier il y a déjà 4 ans mais qui est maintenant disponible en version audio adaptée. Il y aura un petit clin d'œil à Claude Léveillé, il y aura la bande-annonce de la semaine prochaine et bien sûr on finira tout cela avec quelques titres en rafale. Bonjour Nicole.
Bonjour Clotilde.
Nicole Trudeau. Alors Nicole, vous avez entendu, il y a Madame Joanne Fontaine qui est là pour nous aujourd'hui. Mais ce n'est pas du livre de Madame Fontaine dont vous allez nous parler, Nicole, mais d'un livre d'une auteure que je ne connais pas, je vous l'avoue. C'est Nina Berberova. Oui. Ça s'écrit comme ça se prononce.
Oui, hein? Oui.
Et c'est le mal noir. Racontez-nous ça, Madame Trudeau.
Ben d'abord, peut-être quelques mots sur l'auteur.
Oui.
Nina Berberova, elle est née à Saint-Pétersbourg en 1901. Mais elle a quitté la Russie en 1922, d'abord pour aller vers Berlin, puis elle s'est installée à Paris en 1925. Mais par la suite, en 1950, elle va se diriger vers les États-Unis. Et elle va devenir citoyenne américaine en 1959. Pour mourir à Philadelphie en 93. Mais en fait, elle n'a pas été connue beaucoup, en tout cas du public francophone, parce que ses œuvres ont été, quelques-unes de ses œuvres ont été traduites et publiées en français seulement à la fin des années 80.
OK.
Et après son décès.
OK, je comprends. C'est pour ça que je me sens un petit peu moins mal de ne pas connaître. Ben, remarquez, on ne peut pas tout connaître.
Hein. Absolument.
Non.
Et puis, Le Mal Noir, c'est un ouvrage très, très court, hein, qui n'a que 106 pages.
Ah oui?
Mais extrêmement dense.
Mm-hmm.
Alors, c'est un récit qui se développe en 3 parties, 3 temps, 3 lieux. D'abord, Paris, au tout début. Ensuite, l'épisode à New York et un dernier épisode à Chicago. Et puis, il y a 3 figures féminines majeures que l'on retrouve dans le roman. L'épouse, dont on parlera un petit peu plus tard, la danseuse Alia Ivanova et la fille du patron new-yorkais qui s'appelle Ludmila Vlovna.
Oui.
Enfin, en plus, dans ce roman-là, je dirais, le roman est parcouru par 3 leitmotivs, qu'on pourrait dire. Alors, ça prend un petit peu de temps avant qu'on comprenne l'ensemble du récit. Alors, il y a le mal noir, cette notion-là. Il y a la bombe, vous allez voir plus loin pourquoi. Et puis, Droujine, qui est un personnage imaginaire.
Mm-hmm.
Alors, le texte est écrit au jeu. C'est l'autre, enfin, il s'appelle Evgeny Petrovitch. Alors, tout se déroule au jeu. Comme je vous dis, c'est extrêmement court, mais l'auteur fait intervenir plusieurs personnages, en plus de ceux que j'ai
cités. Oui.
Il y a beaucoup de situations différentes.
Mm-hmm.
Il y a des descriptions d'ambiance absolument inspirantes.
Ah, oui.
De belles réflexions assez profondes. Alors, c'est un livre dense, comme j'ai dit, qui peut pas se raconter vraiment seulement en quelques...
Non, j'imagine. Mais quand même, on peut peut-être...
Et il faut le lire. Moi, je dirais le relire. Je l'ai déjà lu 2 fois. Là,
c'est vrai?
Pour pouvoir en parler un tout petit peu. Alors, le récit commence avec ses propos. Je vais vous le lire parce
D'accord.
que c'est une petite ambiance. Les boucles d'oreilles étaient restées 9 ans au Mont de Piété. C'est la première phrase.
Oui.
Or, le Mont de Piété, on apprend en tout cas que c'est un organisme de pré-surgage qui a pour mission de faciliter les prêts d'argent, notamment en faveur des personnes
défavorisées.
Alors, Evgeny, il va s'y présenter 9 ans après le décès de son épouse.
Est-ce qu'on peut dire comment elle décède, l'épouse en question? Parce que je pense que c'est important.
On va le savoir à la toute fin.
Ah, c'est à la toute fin.
Oui, qu'on va le comprendre. C'est pour ça que...
Alors, je dirais rien.
Roman,
bien sûr.
Qu'on l'a fini, on dirait qu'il faut le relire pour mieux comprendre.
Oui.
Et puis, on s'est... Alors, il va chercher ces boucles d'oreilles-là pour les vendre parce qu'il a besoin d'argent. Il veut donc quitter vers les États-Unis. Et puis, au fil des démarches pour vendre les bijoux, on lui apprend que l'un des diamants de ces boucles d'oreilles-là a le mal noir.
Ah, OK.
Et que cette pierre ne vaut rien.
Ah.
Alors, il est complètement effondré parce que là, il n'aura pas l'argent pour partir. Mais on comprendra beaucoup plus loin dans le... Ben, pas beaucoup plus loin parce que le livre n'est pas long, que le mal noir, ça a une forte charge symbolique.
OK.
Comme d'ailleurs, quand je disais, on parlait de la bombe, il s'écrit à quelques moments un cri de douleur et de révolte. Il dit, par exemple, « Si quelqu'un m'avait procuré une bombe, vers qui je l'aurais lancée? » Ou encore ailleurs, « Si quelqu'un me donnait une bombe, je ferais exploser la planète. » Alors, on sent toute la charge là, dramatique qu'il y a dans cette œuvre-là. Alors, c'est grâce à une amie, son amie Alia, avec qui il va partager une chambre, et ça, c'est une situation assez étonnante là, qui est décrite, qui va retrouver l'argent pour pouvoir s'en aller en Amérique. Et la première partie du livre, enfin, qui se déroule à Paris, se termine comme ceci. Il y a tant de choses dans la vie que l'on ne sait nommer, tant de choses qui restent sans réponse. Il y a tant de phénomènes inexplicables, le mal noir qui m'habite depuis 1 million d'années. C'est comme ça que la première partie se termine. Ensuite, la deuxième partie se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, où Evgeny va tisser des liens particuliers avec un dénommé Kaliagin, pour qui il va travailler, et surtout avec la fille de ce dernier, Ludmila Vlovna, qui va jusqu'à le supplier de l'épouser. Mais lui, il est tellement emprisonné dans son passé, il s'esquive. Et là, on va lire des propos assez bouleversants sur l'incommunicabilité. Par exemple, Ludmila le perçoit comme un homme heureux alors qu'il est habité par une terrible fêlure qu'il définit comme suit. Je suis faible, inutile, en proie à une sorte d'immobilité. Il me manque la qualité humaine essentielle, savoir mourir et ressusciter intérieurement. C'est pas un livre léger, hein?
Non, j'entends ça, mais quand je vous entends, Nicole, on est vraiment accroché à vos mots là. Mais j'ai l'impression que le mal noir, ce n'est pas seulement ce que véhicule cette pierre. J'ai l'impression que tous les protagonistes de ce livre-là, d'après ce que vous m'en dites, en tout cas, sont tous atteints quelque part par un mal noir.
Oui, et surtout lui, hein, il est comme pétrifié enfin par son passé. Il n'arrive pas à s'en sortir et à rebâtir sa vie.
Oui. Mais serez-vous d'accord si on ne dit pas ce qui se passe en troisième partie à ce moment-là, si on ne révèle pas, nous, parce que c'est dommage, parce que dans tous les résumés que j'ai pu lire sur ce livre-là, parce qu'évidemment, même si je ne l'ai pas lu, je m'informe, on commence par la fin, finalement.
Oui, mais...
Si on dit là,
c'est-à-dire que dès que tu es au début, tu n'es pas sûr de comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais à la fin, c'est-à-dire dans la troisième partie où là, bon, comme cette liaison n'a pas fonctionné, il n'a pas été capable de l'assumer, au fond, à New York, il s'en va à Chicago. Et au fond, Chicago, pour lui, il l'a inventé, la ville de Chicago. Son ami, qu'il appelle Drougine, c'est un ami imaginaire qu'il essaie aussi de rejoindre. Au fond, il va toujours vers quelque chose... Peut-être pour retrouver son passé qu'il ne retrouvera jamais, mais au fond, son épouse, elle est morte dans ses bras alors qu'il faisait tendrement l'amour à Paris pendant un bombardement. Et c'est comme ça qu'il l'a perdu et qu'il est comme incapable de, disons, de passer à autre chose, ouais, de créer de nouveaux liens. Alors, mmh, le mal noir, au fond, il l'a aussi dans son âme.
C'est ça.
Et ses cris de détresse, ses cris de désespoir, mmh, quand il veut une bombe, au fond, à qui il l'a lancé, à qui il l'a...
Ce sera lui-même.
Ben, peut-être. Hein? Mmh. Alors, c'est un livre qui est vraiment... une charge très, très, très...
Et c'est bien écrit, hein, je pense, Nicole Trudeau.
Oui, c'est bien écrit, c'est très ramassé. Et
oui,
comme je vous dis, moi, l'ayant fini, je me suis dit, non, il faut le relire. Et c'est pas simple d'en parler en 2-3 minutes. Là,
non, mais je vous remercie de l'avoir fait. Vous l'avez bien fait. Puis ça nous donne vraiment envie d'aller nous chercher cette plaquette pour le moins intense, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah oui, très intense, parce que ça foisonne quand même de situations, de portraits, de magnifiques descriptions. Et à la fin, il y a deux magnifiques passages de déclarations d'amour et puis une ode à l'amour perdu. Il y a quand même de très, très beaux moments là-dedans.
Beaucoup de lyrisme et de poésie aussi.
Oui, et puis c'est slave, hein?
C'est ça, exactement. Alors, on écoute ça avec du Tchaïkovski ou avec du Rachmaninov et puis...
Oui, mais je pense que déjà, moi, j'écouterai rien parce que ça me demande déjà...
Oui, non, mais je comprends, mais enfin... Non, c'est parce que je pense aussi à l'âme slave, quand elle est musicale, on sait aussi à quoi ça ressemble.
Oui, c'est assez pathétique.
Alors, Nicole Trudeau, c'est toujours un plaisir hein, de vous entendre et on vous remercie infiniment d'avoir participé. Je vais rappeler le titre de ce livre, Le mal noir, de Nina Berberova, comme ça se prononce, Berberova.
Oui, c'est publié chez Actes Sud.
D'accord, mais c'est disponible en audio adapté, bien sûr.
En audio et en braille également.
Oui. Merci, Nicole.
Merci, bonne journée.
Oui, à vous aussi, au revoir. Joanne Fontaine, bonjour.
Bonjour, Clotilde.
Diriez-vous que c'est le mal noir qui vous atteint depuis déjà quelques années?
Oui, c'est un mal. Je ne sais pas s'il est si noir que ça. En tout cas, j'essaie d'y mettre de la couleur, assurément. C'est une danse qui ressemblerait à du flamenco entre ce mal et moi.
Et vous. Alors, on le sait, parce que les journaux en ont parlé, Dieu soit loué. Ça fait... Je vais passer très vite là-dessus, si vous me permettez.
Moi, je vous suis.
D'accord, mais c'est important quand même de le repréciser si quelquefois quelqu'un ne l'avait pas su. Mais bon, cela fait maintenant bientôt 7 ans hein, que...
Oui, au mois de mars, ça,
fera,
de mars, 7
ça fera 7 ans.
Donc,
et on vous a diagnostiqué, il n'y a pas si longtemps que ça, votre 4e récidive de cancer. Mm-hmm. Mais au moment où vous avez écrit Joanne Fontaine, Hop la vie, c'est au moment où vous avez appris votre premier cancer.
Qui était incurable et qui me restait un an et demi ou deux à vivre.
Voilà.
Et finalement, au bout de 9 mois, j'ai été en récidive. Donc, je me suis dit, qu'ai-je fait pour être si en récidive que cela malgré tout? Et j'ai décidé de l'écrire. D'où le livre « Hop, la vie ».
Et vous l'avez écrit pour vous, j'imagine, ça
oui,
doit faire du bien.
Oui, je l'ai écrit parce que c'est une épreuve qui est très difficile, le diagnostic de cancer incurable.
Et, oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Comme j'ai une personnalité assez extravertie, ça me semblait bien difficile de vivre ça toute seule chez moi. J'ai essentiellement besoin d'être dans la lumière, donc d'être en avant, d'être vu. J'ai besoin de ça.
Oui.
Alors, en faisant le livre, je décidais de vivre tout ça publiquement.
Je voudrais qu'on revienne...
En partage.
Mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette nature qu'est la vôtre. Parce que je trouve à chaque fois qu'on parle de vous, c'est Joanne Fontaine.
Quelle intense.
Voilà, c'est ça, l'intensité, l'exubérance.
Ouais.
Même dans la préface, d'ailleurs, qui est magnifique de
Daniel
Proulx, il y a des adjectifs. C'est côté merveilleuse, énergique. Et il y a aussi le mot dérangeante. Alors là, ma question est... Est-ce que ce n'est pas dérangeant parfois de se faire tout le temps, non pas traiter, mais dire de nous qu'on est dérangeant?
Oui, mais comment être autre chose que ce que l'on est? Et je crois que ce qui est chouette, c'est qu'en vieillissant, ce genre de remarques-là nous atteint moins ou nous atteint pas selon les journées. C'est sûr qu'étant jeune, j'ai été prise dans une polarité ou dans une dualité qui n'a pas toujours été évidente parce qu'on préfère jeune faire partie du lot, du rang. Alors qu'essentiellement, j'ai aucune intention de faire partie du rang. Ça fait partie de moi, ça m'amuse même. Je me souviens de mon directeur à l'école de théâtre, il me disait, mais Joanne, qu'est-ce qu'on fait là, si tout le monde est comme toi? Ben, je dis, ben, on verra. Mais en attendant, il n'y a pas beaucoup. Je suis la seule. Donc, il faut s'accepter, il faut apprendre à s'aimer. C'est là vraiment...
Et en même temps, il y a une phrase que je note dans la page 28 de votre livre. C'est certain que je ne me laisserai pas abattre. Je ne veux pas mourir et tout ce que je suis de trop va enfin me servir.
Voilà. Oui, parce que quand j'ai appris, je me souviens très bien dans la chambre de plan, quand elle m'a dit qu'il me... Je lui ai demandé, elle me dit, il me reste un an et demi, je me dis, oh là là là, qu'est-ce que je fais pendant un an et demi? Je m'en vais dans la colère, j'en avais beaucoup, je m'en vais dans la dépression, ou je m'en vais dans ma lumière. Puis je me suis dit, ben voilà, t'as tellement de lumière en toi, exceptionnellement beaucoup de lumière, d'énergie, de vitalité. Au lieu que tu sois gêné ou que tu sois sensible parce que les gens réagissent à ça, bien, c'est que tu vas t'en aller dans ce côté-là et tu vas, au contraire, le laisser sortir, vivre avec. Et ceux qui n'aimeront pas ça, je ne porterai pas flanc à ceux-là. Je vais porter flanc à ceux qui m'aiment.
Bien sûr.
Parce qu'on est dans la nature humaine, on va avoir, je ne sais pas moi, 50 critiques ou 50 opinions et on va retenir la négative. On est comme ça. Les humains, on est fait comme ça. Et moi, j'étais déjà dans une démarche. J'ai fait un retour aux études à 50 ans. Je suis devenue coach de vie en programmation neurolinguistique. Donc, nourrir la sérénité, cesser cette quête du bonheur qui est absolument navrante et parfois décourageante. Alors, j'avais l'occasion là de devenir ce que je suis, un être absolument exceptionnel, unique. Comme chacun de nous. Mais moi, je suis dans l'expression de tout ça. Je suis une femme expressive. Je suis un être humain expressif. Mais oui, il y en a.
Mais oui.
Ça existe. et je crois qu'il faut nous lâcher l'ousse de plus en plus parce que nous sommes dans une société assez sombre, assez noire. Je ne voudrais pas me lancer dans une polémique féministe non plus, mais on a besoin de phare.
Oui. Oui.
On a besoin de lumière. On a besoin de guide, d'humble guide. J'en fais partie. Voilà. Pour moi, Et pour la société dans laquelle on vit en ce moment.
Pourtant, vous dites à un moment donné aussi, en page 32, « Moi qui ai si souvent voulu mourir, maintenant que ce serait possible, je ne veux plus. »
Oui, je viens d'une famille, du côté de mon père, les Fontaines, d'une famille d'alcooliques, donc de dépressifs. Et j'ai dans mes racines ça. Donc, j'ai été habitée par quelques dépressions. Dépression nerveuse, oui. J'ai toujours su rebondir. J'y suis allée. Oui, il y a eu des moments où j'ai voulu mourir. Alors, on ne se rend pas compte quand on dit ça. Il ne faut pas dire ça.
Ici, il y a un extrait, bon, justement, sur la sérénité. C'est l'extrait que je vais lire en seconde partie.
Ah bon?
Parce qu'en seconde partie, je lis toujours un extrait d'au moins 4 ou 5 minutes.
Okay.
Mais je voudrais aller à la fin de cet extrait-là, parce qu'il faut quand même qu'on en parle. Sérénité, spiritualité, méditation, prière, ces mots-là font... désormais partie de votre vie ou en faisait déjà partie avant?
Oh non, tout jeune. J'ai été en contact avec ma vie spirituelle assez jeune, même à l'âge de 7 ans. J'ai eu une grande souffrance. Je croyais que mon corps n'allait pas supporter. Et je me suis levée à l'écorce d'un arbre, un cormier. Et c'est la sève de l'arbre qui m'a détendue, qui m'a calmée. Alors, j'ai tout de suite eu accès à beaucoup de créativité, de folie. Je suis comme une folle, et une spiritualité certaine. Donc, à partir de ce moment-là, la nature devenait un refuge, devenait quelque chose d'apaisant, parce que je suis essentiellement, enfin, de moins en moins, mais j'essaie, mais je suis assez quelqu'un d'assez nerveux aussi, d'assez fébrile.
Ça vous calme.
Ça me calme. Et puis, par rapport à ce que je vis en ce moment, ben, la spiritualité me permet de me connecter à mon corps malade, à mon cœur, à mes valeurs, à ce que je suis, et à tout ça connecté dans une vie spirituelle qui est beaucoup plus grande que moi, ce qui me permet de cette union de ces corps-là me permet de vivre dans un liquide amniotique, dans ma tête, dans mon imagination.
Oui, oui.
Donc, je suis toujours en processus de régénératif.
Oui, c'est-à-dire que ce que vous appelez votre liquide amniotique, parce qu'à un moment donné, je vous ai entendu dans une autre entrevue, c'est que vous êtes capable de vous détacher totalement de votre souffrance, donc du cancer, parce que c'est souffrant. Je veux dire, vous en avez...
Oui, mais c'est souffrant quand on se fait opérer. C'est souffrant. C'est là que c'est souffrant le plus.
Et puis, évidemment, moi, j'ai écrit une note à un moment donné en page 70 et j'ai écrit simplement José Blanchette parce que vous vous posez la question aussi, comment font-ils, en parlant des médecins, pour faire fi de toutes les études sérieuses prouvant que l'humain a une faculté d'auto-guérison qui peut être stimulée par la méditation, la visualisation, la relaxation, le yoga, l'acupuncture et quoi encore? Ouais. On se demande. Oui, avez-vous une réponse à ça?
Moi, quand la jeune chirurgienne m'a annoncé ça, je me suis dit, m'a annoncé qu'il me reste un an et demi ou deux, je me suis dit, je l'ai vue comme une race, comme la race des médecins. Ouais. La race des hommes, mais c'était une femme, en fait, la race des hommes qui ont brûlé toutes ces sorcières, soi-disant sorcières, qui avaient la connaissance des herbes, qui étaient les médecins. C'est elles qui guérissaient. Alors, les hommes se sont appropriés cela. Et cela existe encore par les compagnies pharmaceutiques, par les médecins. On voit bien certaines régions, même en Ontario, à Ottawa, il y a une médecine qui est beaucoup plus intégrative.
Oui.
On voit juste ici au Jewish, dans les hôpitaux anglophones au Québec, il y a une médecine qui est beaucoup plus intégrative. Il y a beaucoup de résistance dans la médecine francophone, le milieu hospitalier francophone. Alors, moi, je me dis, on peut faire notre... nous sommes les malades au cœur de notre guérison. Il ne faut pas tout remettre entre les mains du médecin.
Non, c'est ça.
Il ne connaît pas tout. Lui, il connaît ta maladie, il connaît un point. Mais toi, on est plus qu'un point.
Ben oui.
Moi, je suis plus que le cancer que j'ai.
Oui, et plus qu'une statistique.
Et plus qu'une statistique.
Alors, vous êtes une femme débordante d'optimisme, et d'ailleurs, à un moment donné, vous dites, mais alors, après tout, suis-je dans le déni? Qu'est-ce que c'est que cet optimisme débordant? Je vous pose la question parce que je suis convaincue qu'il y a forcément plein de gens qui font, non, mais elle commence à nous fatiguer, elle, avec son optimisme débordant. Hein?
Des conséquences à une certaine résilience.
Oui, oui.
C'est aussi, je crois qu'on a profondément les choix dans la vie. On a le choix de qu'est-ce qu'on entretient. Je me lève le matin, j'entretiens mes saboteurs. J'entretiens la noirceur en moi.
Le petit hamster.
Les folles du logis, le hamster, le mammouth, appelons-le comme on veut. Identifions-les, en tout cas, comme étant une entité ou plusieurs entités. Ou je m'en vais dans une autre partie de moi qui est jeune, qui a un avenir. Alors, qu'est-ce que je privilégie dans la vie? Alors, moi, je vais privilégier mon optimisme, mes qualités, mes ressources. Tu sais, comme je fais beaucoup d'ateliers de croissance personnelle, et puis je demande toujours aux femmes, quel âge avez-vous? Alors, 42, 50, 68, 85. Je dis, non, l'âge de votre cœur. Et puis, ça change tout. Moi, qui étais si malade, je me suis dit, à 55 ans, je me suis dit, pour passer à travers ces épreuves, la maladie, c'est dur, les opérations. Là, je me suis dit, tu peux pas avoir 55 ans. Alors, je me suis dit, je vais avoir entre 16 et 19 ans. Donc, ça change la donne.
Exactement.
Ça change la vitalité, ça change mon incarnation, mon identité s'en va vers une autre croyance, vers une autre attitude. Et c'est, à mon avis, mon humble avis, c'est très, très, très important.
Mais parlons-en
vachement
important. Parlons-en de cette attitude-là, parce que dans les dernières pages de votre livre, vous les intitulez d'ailleurs, ces pages-là, « Ressources », parce que vous vouliez aussi que ce livre-là en aide d'autres, sont dans le même...
Bon, alors parlez-nous de... narcissique, finalement.
Bon, alors parlez-nous de quelques-unes de ces ressources que vous jugez importantes lorsqu'on traverse comme vous, une épreuve multipliée par 4, comme c'est le cas pour vous?
Mais d'abord, c'est le choix de comment est-ce qu'on veut vivre. Comment est-ce, le temps qu'il nous reste à vivre, on veut le vivre comment? Alors, bien, pas bien. Il y a essentiellement des trucs qui sont accessibles à tous et à toutes et gratuits. Il y a la cohérence cardiaque, qui est une technique de respiration qui est accessible à tous. Il y a la méditation. Il y a la méditation pleine consciente. Et il y a la pleine conscience aussi,
oui.
qui sont là aussi des outils
fantastiques.
Fantastiques. Oui. Il y a...
danse, vous dansez beaucoup.
Oui, beaucoup.
Mais c'est vrai que n'importe qui, allez hop, on met une musique.
Oui, n'importe quelle musique, on fait la ballerine, si on veut sonner dans le classique, on s'en va dans le hard rock, on fait ce qu'on veut, mais c'est parce qu'on est beaucoup dans un monde de mots.
Oui.
On est beaucoup dans un monde où on se nomme, se décrire, on va se... en thérapie ou tout ça, et on n'ose plus jouer à des parties à l'intérieur de nous que nous ne contrôlons pas, sortir du contrôle, aller dans l'instinct. Et je trouve que la danse crée le mouvement. Et par le mouvement physique, arrive le mouvement dans sa tête, dans la vie, dans la... Et puis, sortir d'être gêné, mais là, si je danse, mes voisins vont me voir. Mais attends, tes voisins, ils ne sont pas tous en train de regarder par ta fenêtre.
Non.
Qu'est-ce que tu es en train de faire?
Oui. Et quand bien même.
Et quand, on a tellement peur du jugement des autres.
Et quand bien même.
Puis c'est sûr que le jugement des autres nous affecte, mais...
Il nous reste deux petites minutes.
Oui, l'amour de... Mais essentiellement, il faut apprendre à s'aimer.
Voilà, exactement. Ah, ça, j'y arrivais parce que vous aviez un problème aussi face à ça.
Mais comme bien des personnes. On est capable d'aimer beaucoup. On est capable d'aimer notre amoureuse. Oui. On est capable d'aimer nos enfants, nos amis.
Mais aujourd'hui...
On n'arrive pas à s'aimer. Je suis assez folle de moi.
Et puis, avoir un petit cahier de bord, écrire, pour vous, c'est important. Et est-ce que vous avez toujours votre queue de dinosaure
Essentiellement la queue de dinosaure, bien entendu.
Alors ça, écoutez, je ne sais pas, si on fait la queue de dinosaure, est-ce qu'on peut savoir sur le net à quoi ça ressemble?
C'est très facile. Alors, on s'imagine être un squelette, on s'en va le long de notre colonne vertébrale, on arrive au coccyx. À partir du coccyx, on rajoute des vertèbres, comme si on avait une queue de dinosaure, et on se frotte la queue de dinosaure par terre.
À droite et à gauche.
Et ça nous donne un équilibre, ça nous donne trois pattes. Et ça nous donne... La queue de dinosaure nous permet de nous protéger, nous permet...
Joanne Fontaine, merci.
Merci
pour... je trouve ça très encourageant de voir une femme dérangeante comme vous. J'adore ça, être dérangée par vous. Alors, merci beaucoup. Vous
merci
êtes encore en traitement en ce moment.
Et
vous êtes encore en chimiothérapie. On vous souhaite le meilleur.
Voilà.
Et on vous revoit dans quelques mois, ici même dans le studio.
Ah, ce serait chouette.
Yes!
Salut.
Voilà un objectif.
Bye.
Salut, Jean-Louis Fontaine. Merci. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Et comme le veut la tradition, qui dit seconde partie dit la participation d'un ami bénévole de Vues et Voix. Il y aura également une chronique de Gérard Saint-Denis autour de Claude Léveillé. Il y aura un extrait du livre de Joanne Fontaine, Hop la vie, Joanne Fontaine qui vient de nous laisser. Et puis, il y aura bien sûr la bande-annonce de la semaine prochaine et quelques titres en rafale. Et oui, tout ça dans votre prochaine demi-heure, mais tout de suite, on va se tourner vers Gilles Dupuis qui est bénévole ici. Bonjour Gilles.
Bonjour Clotilde.
C'est une première pour vous ici.
Oui.
Ça vous énerve?
Bon, toujours un peu.
Oui.
Mais j'ai quand même, disons, une certaine habitude du micro.
Oui, c'est bien ce que je pense aussi. Bon, écoutez, alors, on va aller, j'ai failli dire droit au but, pouvez-vous le croire? On va aller droit au but. Vous aviez envie de nous parler d'un livre que vous avez lu, évidemment, ici, en tant que bénévole.
Voilà.
Alors, présentez-nous ce livre. Quel en est le titre?
Je veux croire au soleil.
Oui.
Un livre écrit par Jacques Semelin. Alors, je suis venu partager ce livre avec vous parce que c'est un livre qui m'a fait découvrir un monde dont on connaît peu de choses, finalement, à moins de le vivre soi-même. C'est le monde des non-voyants. Et ce via un récit de voyage, voyage ici même à Montréal, au Québec, écrit par un Français, parce que Jacques Semelin est un Français.
Et donc, ce monsieur est non-voyant?
Oui, c'est...
Alors, c'est lui qui écrit au jeu, je veux dire, c'est
oui,
un récit.
Oui, il écrit
récit.
Au jeu. Okay. C'est un récit très simple. Pourtant, ce monsieur, c'est un monsieur qui a ses lettres. C'est un chercheur, c'est un historien, un politologue français de grande réputation, spécialiste des génocides. Il a créé un cours sur le phénomène des génocides, spécialisé également dans l'étude des phénomènes de résistance civile non armée au régime totalitaire. Il a eu... avec ses recherches, des prix prestigieux, dont le prix Figaro Sciences Po en 2007, et même un prix aux États-Unis, le James Lawson Award en 2014, pour l'ensemble de ses travaux. Donc, c'est une sommité.
Oui, c'est une sommité, c'est clair. Et c'est un monsieur qui a toujours été aveugle ou qui l'est devenu?
Oui, il en parle. Il a appris, Jacques Semelin, à l'âge de 16 ans, qu'il était atteint d'une maladie de la rétine et qu'un jour, inexorablement, il ne verrait plus. Effectivement, sa vue s'est dégradée et à 35 ans, il était devenu aveugle. Dans un livre d'ailleurs publié il y a une dizaine d'années, « J'arrive où je suis étranger », il a raconté son combat contre la cécité. Mais c'est donc justement en tant qu'aveugle, et non pas en tant que
oui, scientifique,
qu'il a écrit ce livre. Même si c'est ce qui l'a amené à Montréal, c'est que l'Université de Montréal l'avait invité à donner un cours d'été en sciences politiques. Donc, il a fait un séjour de 2 mois à Montréal.
Alors, qu'est-ce qui vous a saisi? Parce que dans ce récit, vous l'avez très justement dit dans votre introduction, finalement, tant qu'on ne l'a pas vécu nous-mêmes, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette lecture-là?
Ben, c'est justement en suivant ce monsieur, parce qu'on le suit pas à pas dans son voyage à Montréal, depuis l'arrivée à l'aéroport jusqu'à l'entrée dans l'appartement qu'il a loué pour 2 mois. Il ne doit prendre connaissance des lieux, où est le réfrigérateur, où est la cuisinière, où est attention, la propriétaire lui dit, il y a un escalier, vous pourriez tomber. Alors, on le suit pas à pas dans cette démarche-là. Et c'est qu'on réalise toutes les embûches qu'il y a à vivre dans ce monde-là, où pour s'orienter, on n'a que ses oreilles, l'odorat, le toucher, la mémoire, très importante, la fameuse canne blanche, évidemment, et l'imaginaire. L'imaginaire qui construit un monde à partir des données des sens, mais aussi des expériences passées, spécialement dans le cas de ceux qui ont déjà vu, comme c'est le cas de l'auteur. Alors, c'est l'imaginaire qui permet d'inventer le réel. On redécouvre dans Montréal... Et je parle pour moi et pour les voyants qui vont lire ce livre, on le retrouve parce qu'on doit apprivoiser comme ça un nouvel espace avec l'auteur, celui de son appartement, celui des couloirs du métro, des couloirs sans fin de l'université, de la rue Saint-Denis où il se promène, il explore le monde des terrasses, puis il y a des trottoirs achalandés avec plein d'embûches là aussi.
Oui.
Donc c'est intéressant pour nous. Puis les non-voyants, eux, je crois... Ben, ils pourront reconnaître une réalité qui est leur réalité quotidienne.
Bien sûr, c'est clair. Oui.
Mais une réalité qu'ils n'osent pas souvent, je pense, raconter.
C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Surtout nous qui ici, travaillons pour eux, on en reçoit souvent. J'ai eu droit à des petites confidences, mais très peu.
Ben, très en général, peu. Je pense qu'il y en a un peu, parce que le simple fait de se présenter comme...
Non-voyant.
Non-voyant, handicapé, ça crée souvent un malaise.
Ça peut
susciter la peur, même la pitié, dit Jacques Semelin. Mais lui, justement, prend la peine de nommer cette réalité en racontant son exploration à l'aveugle de cette ville, une nouvelle géographie, de nouvelles habitudes, un nouveau vocabulaire. D'ailleurs, bon, il y a quelques inexactitudes sur la langue et l'histoire d'ici, mais on lui pardonnera ça. Mais... il y a quelques moments d'émotion et de nostalgie aussi.
Ah, certainement.
Mais ce n'est pas du tout un témoignage larmoyant. Ça ne va pas de soi d'affronter ce monde nouveau, les yeux fermés, mais il le fait très bien et avec un esprit positif. Point supplémentaire d'intérêt pour tous ceux qui ont un lien avec Vues et Voix. On retrouve présente dans ce livre la présidente du CA, du conseil d'administration de l'organisme, Diane Pilote,
oui.
qui a gentiment servi de guide à M. Semelin dans ses déambulations montréalaises.
Ah oui, OK.
Et d'ailleurs, au cours de ses déambulations, il fait un court passage ici même.
Ah ben oui, ah ben oui, j'imagine, bien sûr.
Alors voilà, je pourrais terminer ma présentation en vous citant une phrase que l'on trouve en quatrième de couverture.
D'accord.
Qui en même temps rejoint le titre, ça s'appelle « Je veux croire au soleil ».
Oui.
Et cette phrase-là, ça résume bien l'esprit de M. Semelin. Cette phrase se lit comme suit. « Quand on ne voit plus le soleil, il s'agit de croire qu'il existe et de s'en remettre à la confiance vitale. »
Très, très beau. Très, très beau. Gilles Dupuis, merci beaucoup. Gilles Dupuis qui nous présentait « Je veux croire au soleil » de Jacques Semelin. Excellent choix. Et puis, comme vous pouvez l'entendre, tous les livres qui sont lus par Gilles, ce doit être assez un régal de vous entendre, mon ami.
Vous êtes bien gentil.
Non, c'est pas de la gentillesse. Il me semble que c'est du velours qui nous glissait dans les oreilles. Gilles Dupuis, merci. Merci beaucoup pour ce que vous faites ici. Puis, au plaisir de vous réentendre, nous présenter un autre livre. J'en serais très heureuse.
Ben, je suis très heureux de mon passage ici. Merci.
Merci, Gilles. Alors, c'est l'heure de l'extrait du jour. Vous savez que maintenant, j'ai pris l'habitude lorsque la saison 2016 a repris l'an dernier, de vous lire un extrait d'un livre dont il aura été beaucoup question, notamment en première partie de cette émission. Alors, vous avez déjà compris, si vous l'avez entendu, que c'est un extrait du livre de Joanne Fontaine, « Hop, la vie ». Cette femme qui en dérange parfois tellement, elle brille par son optimisme malgré sa quatrième récidive de cancer. Elle est actuellement encore en traitement. Et là, elle écrit sur la sérénité, ce sont les pages que j'ai choisi de vous lire. Elle dit « Mon cancer ». Non, ce n'est pas mon cancer, c'est le cancer. Je ne suis pas mon cancer, lui et moi ne sommes pas la même entité. J'identifie l'ennemi pour mieux le combattre, bien lui faire face. Il devient comme un cadeau dans ma vie. Il m'entraîne dans mon ultime peur, celle de mourir. Mais voilà, il s'agit là d'une finalité inévitable. Comme on meurt qu'une seule fois, je préfère mourir avec panache. Je ne veux pas que ce soit ordinaire. Cela étant dit, je ne me sens pas sur le point de mourir. Bien au contraire, je suis très loin de l'agonie. J'ai l'impression que je n'ai jamais été aussi heureuse, confiante, dynamique et positive. Je suis obligée de recevoir, obligée de prendre le temps, et cela sans m'étourdir dans toutes sortes de projets. Je prends soin de moi sans aucune culpabilité. Je suis entourée d'amour. L'amour. Qu'avons-nous besoin de plus que... d'amour, d'argent. Mais en ce moment, la question ne se pose même pas. Il m'en reste un peu. Bien entendu, être malade n'a jamais enrichi personne. C'est pire encore pour les travailleurs autonomes. J'ai du temps pour éprouver de l'angoisse et de la peur. Par contre, j'ai encore plus de temps pour les transcender. C'est comme si la vie était simple. Mon objectif est clair et fondamental. Je veux vivre. Un point, c'est tout. Je possède ce dont j'ai besoin, les capacités et les ressources. Je suis apaisée par la présence accueillante et rassurante de toutes ces personnes qui m'aiment et qui mettent tout en œuvre pour m'aider à m'en sortir. Je suis tout le contraire d'une personne abandonnée. C'est un baume pour mon moral, une énergie qui m'est nécessaire, qui me calme. Je prends le temps de compter mes bénédictions. J'entretiens un profond sentiment de gratitude. Je ne suis plus à la recherche du bonheur. Je choisis... la sérénité, oui, c'est ça, la sérénité. Ça me permet de rencontrer le bonheur et son contraire plus simplement, plus profondément, plus lucidement, sans débordement et avec autant d'intensité. La sérénité est moins décevante que l'est parfois la quête du bonheur. La sérénité me permet de franchir les épreuves avec plus d'insouciance, justement, avec ce qui m'arrive, heureusement que je comprends et choisis cette avenue. À la sérénité, je rajoute la joie. Vivre en état de joie, cultiver la joie à chaque moment du jour, avec chaque personne que j'ai la chance de recevoir à la maison, à chaque repas, à tous les moments. Et surtout, surtout, célébrer la vie qui circule dans mes veines. Célébrer la nature si réconfortante qui s'offre à mon regard, à tous mes sens, source de spiritualité intense. Célébrer les rencontres, célébrer tout simplement comme nous le faisons très rarement, happés que nous sommes par le quotidien. prendre le chemin de la reconnaissance pleine et entière de pouvoir se loger, manger, aimer et vivre. Nous avons tendance à tout tenir pour acquis. C'est fou comme la perspective de mourir permet de vivre tout simplement. Et pourtant, depuis notre naissance, nous nous dirigeons inéluctablement vers la mort. La routine de la vie nous fait oublier le privilège que nous avons seulement d'être là, présents, à l'instant même. Quelle magie! Voilà, extrait de « Hop la vie » de Joanne Fontaine, que je ne saurais que trop vous recommander d'aller vous chercher, puisque maintenant c'est disponible en livre audio adapté au SQLA, donc via le SQLA pour le Québec et via le CAEB pour le reste du Canada. Bonjour Gérard, ça vous dit quelque chose cette musique-là, hein?
Bonjour, vous jouez du piano?
Oui, mais là, qu'est-ce que vous voulez? Je suis obligée de le lâcher pour reprendre le micro. Mais ça, non, c'est ça, c'est une petite... ça s'appelait Fugue et Jazz, il me semble. Gigue et Jazz, ça s'appelait. Et vous savez de qui c'était?
Et Claude Éveillé.
Eh bien oui!
Et Claude Éveillé qui était... Moi, c'était mon... C'est fou, mais c'est lui qui m'a fait découvrir la poésie.
Ah.
Il n'y a pas à dire, je connaissais, tu sais, j'avais lu du Nelligan, j'avais lu d'autres choses, là. J'étais pas trop mal, mais c'est pas ça. Lui, je sais pas, tu sais, lui, c'était, je l'appelle ça, moi, c'est des poètes musicaux.
Oui, c'est vrai.
Ben, il n'est pas parti de la gang des...
Non,
des,
c'est vrai.
Des Sylvain Lelièvre, des Raymond Lévesque, des Gilles Vigneault, des Georges Dard, des Claude Gauthier, des Félix Leclerc.
Absolument.
Et ces gens-là... qui nous ont fait quand même découvrir la poésie, mais en la chantant.
Exactement. Vous avez bien raison.
C'est le fun, parce qu'on a un peu de misère, on n'a pas été habitué à ça, beaucoup d'entre nous, en tout cas, ceux de notre âge, là, qui ont 65 ans en montant, n'ont pas été élevés dans la poésie.
Non, c'est vrai.
Autrement. Et aujourd'hui, ben, c'est drôle, je regarde ça, il y a des jeunes qui s'intéressent à ça, puis il y a d'autres moyens de communication. Mais je reviens aux deux livres, c'est-à-dire aux livres qu'on veut
vous présenter. Eh bien là, vous me faites plaisir. Voilà, on revient aux deux livres.
C'est de Marie-Josée Michaud, c'est vraiment la biographie de Claude Léveillé.
Qui s'appelle simplement Claude Léveillé, d'ailleurs. C'est tout.
Qui est disponible au SQLA. Il y a le tome 1 et le tome 2.
Oui.
Mais c'est deux livres complètement différents.
Ah, racontez-nous ça.
Ben, le premier, c'est vraiment une biographie. C'est-à-dire qu'on le retrouve là, quand il finit son cours classique.
Oui.
Surtout jusqu'à temps qu'il aille rencontrer Édith Piaf dans les années 60.
Oui.
Ça l'a bouleversé complètement. Et je le comprends que ça l'a bouleversé. Pas juste lui. Raymond Lévesque aussi a travaillé avec
lui. Oui, c'est vrai.
Il racontait ça, Raymond, comment ça les parties qu'il y avait là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et le tome 2, alors, qu'est-ce qu'il a de différent au tome 1?
Le premier, c'est vraiment plus biographique.
D'accord.
Et ça nous rappelle un peu qu'à partir de son classique, qu'est-ce qu'il a fait, etc.
D'accord.
Mais le deuxième, le tome 2, qui a 15 heures de lecture, c'est une espèce de comment je dirais ça, donc, on écoute ça, puis elle parle de la musique, elle parle de ses chansons, elle parle de sa poésie.
Oui.
Et j'ai l'impression que quand on lit ça, on entend la musique.
Oui.
C'est merveilleux.
Oui. On parle plus aussi de ce qu'il a vécu en tant qu'homme, hein, je crois, dans ce tome 2. Je pense à la disparition de son fils.
Des problèmes personnels.
C'est ça. Oui,
mais
oui, absolument.
C'est quand même, c'est léger. Moi, je le dis à ma défense là-dessus, je dis ça, je suis pas un amateur de biographie. Non, j'en lis, mais je suis pas un amateur de biographie. Mais ça, c'est pas une biographie, mais ça en est une, ça n'est pas. C'est-à-dire, c'est pas pareil. C'est raconté. L'histoire de quelqu'un, mais dans sa vie, dans ses problèmes, dans ses grandes aventures, grandes interrogations, et en même temps, ce qui le tenait, ce qui le faisait vivre, dans le fond, son fond d'âme, c'est ça. C'était sa poésie, c'était son écriture, etc. Il a écrit tellement de belles choses.
Mais oui, absolument. D'ailleurs, et on va se laisser là-dessus, mon ami, j'ai choisi une chanson. Non, je n'ai pas choisi Frédéric, j'en ai choisi une, moi, qui me touche terriblement, qui est aussi très connue, c'est Le temps d'une chanson.
Ah.
Et j'espère que mon choix vous plaît bien. Et je vous propose, cher Gérard, qu'on se quitte là-dessus et qu'on écoute Claude Léveillé. Ça vous va?
Je vous laisse là-dessus sur Le temps d'une chanson et je pense qu'avec ça, on va être bien heureux.
Merci beaucoup, Gérard,
salut
et bonne fin de journée.
Bye
oui,
bye.
Au revoir.
Le temps d'une chanson. Le temps de dire je t'aime. Le temps d'une chanson. Et je t'emmène. Je n'ai jamais pris la mer sans jamais penser à toi. Je n'ai jamais pris la mer sans jamais t'emmener avec moi. Le temps de dire je t'aime. Le temps d'une chanson. Et je t'emmène. Si j'ai fait le tour du monde, toujours seul, loin de nous deux. Le tour du monde, c'était pour le parfaire à tes yeux, mon amour. Le temps d'une chanson, le temps de dire je t'aime, le temps d'une chanson. Et je t'emmène. Et tous ces voyages d'hommes m'ont mené au bout du temps. Et tous ces voyages d'hommes m'ont mené jusqu'à toi, hors du temps, mon amour. Le temps d'une chanson, le temps de dire je t'aime, le temps d'une chanson et je t'emmène. Le temps d'une chanson, le temps de dire je t'aime, le temps d'une chanson et je t'emmène. Avec moi.
Voilà, Claude Léveillé, le temps d'une chanson. La semaine prochaine, on change complètement de sujet, du moins par rapport à Claude Léveillé, quoique Claude Léveillé étant très malade, il avait besoin de proches aidants autour de lui avant qu'il ne décède. Et la semaine prochaine, on va parler avec une chroniqueuse que vous connaissez bien parce qu'elle fait souvent partie des émissions de Marianne Paquette, c'est France Cardinal Remette, et qui a écrit un livre fantastique qui s'appelle « Quand la vie se fragilise », un guide pour vous et vos proches aidants. Donc, je ne vous en dirai pas plus pour aujourd'hui, on parle de proches aidants. Par contre, j'ai envie de vous lire ceci. Ça s'appelle « Paroles de vie ». Et parce que c'est, tous ces conseils qu'elle donne aux proches aidants, elle les émaille comme ça, des espèces de tout petits contes ou de pensées. Et Parole de vie, c'est ceci. C'est une dame chinoise qui possédait deux grands pots qu'elle portait, chacun suspendu au bout d'une perche appuyée derrière son cou pour aller chercher des pots, de l'eau, pardon. Un des pots était fêlé et perdait de l'eau alors que l'autre était en parfait état et permettait de toujours apporter sa pleine ration d'eau. À la fin de la longue marche, à partir du ruisseau vers la maison, le pot fêlé, lui, n'était plus qu'à moitié rempli d'eau. Tout cela est survenu sur une base quotidienne pendant deux années entières, alors que la dame ne rapportait chez elle qu'un pot et demi d'eau. Bien sûr, le pot intact était très fier de ses accomplissements, mais le pauvre pot fêlé avait honte de ses imperfections et se sentait triste, car il ne pouvait faire que la moitié du travail pour lequel il avait été conçu. Après deux années de ce qu'il percevait comme un échec, il s'adressa un jour à la dame alors qu'ils étaient près du ruisseau. « J'ai honte de ce que je suis, parce que la fêlure sur mon côté laisse l'eau s'échapper tout le long du chemin du retour vers la maison. » La dame lui sourit et lui dit « As-tu remarqué qu'il y a des fleurs sur ton côté du chemin ?» et qu'il n'y en a pas de l'autre côté. Il y a longtemps que j'ai aperçu ta fêlure. J'ai alors semé des graines de fleurs de ton côté du chemin et chaque jour, lors du retour à la maison, tu les as arrosées. Pendant deux ans, j'ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs pour décorer la table. Sans toi, avec ta fragilité, il n'y aurait pas pu y avoir cette beauté pour agrémenter la maison. Nous avons tous nos propres défauts, nos propres fêlures. Ce sont ces fissures qui rendent nos vies intéressantes et si enrichissantes, dans la mesure où ces défauts sont acceptés et accueillis, sans jugement. Ils permettent ensuite d'offrir une présence authentique aux autres et de reconnaître les forces et les qualités qui émergent de la différence. Voilà, c'était donc extrait de « Quand la vie se fragilise », dont viendra nous parler la semaine prochaine France Cardinal Remette. Les titres en rafale maintenant. « La fille de Brooklyn » de Guillaume Musso, on commence par du léger. Oh, je me souviens très bien de cet instant, nous étions face à la mer. L'horizon scintillait, c'est là qu'Anna m'a demandé « Si j'avais commis le pire, m'aimerais-tu malgré tout ?» Vous auriez répondu quoi, vous ? Anna était la femme de ma vie, nous devions nous marier dans trois semaines. Et bien que je l'aimerais, quoi qu'elle ait pu faire, du moins c'est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans son sac d'une main fébrile et elle m'a tendu une photo. Et elle a dit « C'est moi qui ai fait ça ». Sous le choc, je me suis levée, je suis partie sans un mot. Lorsque je suis revenue, il était trop tard, Anna avait disparu et depuis, je la cherche. « La fille de Brooklyn » de Guillaume Musso. Un peu moins facile, certainement, le livre de Sylvie Germain, « À la table des hommes ». Abel est un enfant issu de la nature et du monde animal. Il est né en pleine guerre. Il est adopté par deux frères d'un autre pays qui lui enseignent la culture des mots. Dans sa quête d'identité, il se heurte à la brutalité des hommes sous toutes ses formes. Son obscure naissance au cœur d'une forêt en pleine guerre civile a fait de lui un enfant sauvage qui ne connaît rien des conduites humaines. S'il découvre peu à peu leur complexité, à commencer par celle du langage, il garde toujours en lui un lien intime et pénétrant avec la nature et l'espèce animale, dont une corneille qui l'accompagne depuis l'origine. À la table des hommes, de Sylvie Germain, tient autant du fabuleux que du réalisme le plus contemporain. Il était une fois Radio-Canada, de Robert Roy. Robert Roy le connaît volontiers. Il a eu la chance de faire carrière à la belle époque de Radio-Canada. Le reconnaît volontiers, pardon. Il a eu la chance de faire sa carrière à la belle époque de Radio-Canada, du début des années 50 jusqu'aux années 80. La naissance et l'épanouissement de la télévision publique a été une belle et grande aventure qui lui a permis de côtoyer au jour le jour les créateurs les plus talentueux, de les encourager et de les soutenir. Mais comme dans toutes les vraies aventures, rien ne se passe comme prévu. Acteurs, réalisateurs, comédiens, artisans et producteurs, chacune et chacun en aurait long à raconter. Comment pourrait-il en être autrement quand on pense seulement à Bobineau et Bobinette, au beau dimanche, à la course autour du monde, à l'anse et compte ou au défi mondial? Alors on ne s'étonnera pas à la lecture de ce livre que Robert Roy ait pris quelques années à écrire cette histoire sans complaisance, mais aussi sans règlement de compte. La bête et sa cage de David Goudreau, qui viendra en avril pour nous le présenter à l'émission. David Goudreau qui nous revient après La bête à sa mère, qu'il était venu nous présenter. Cette fois-ci, la bête est en prison, la bête a trouvé sa place. Un livre vraiment pas facile, cœur pur s'abstenir, mais un livre une nouvelle fois servi par une écriture où le rythme du slam n'est jamais très loin. Il s'agit d'un monologue, celui d'un type amené en prison pour meurtre, qui se raconte et qui raconte les rapports de force, qui raconte les blessures inguérissables et surtout dans l'aile psychiatrique d'une prison. Et enfin, une escroquerie légalisée précise sur les paradis fiscaux que je vous propose de Alain Deneau, postface de Denise Burns d'Oxfam Québec, qui écrit d'ailleurs dans sa préface « Lorsque les écoles se détériorent, qu'une clinique ferme, qu'un viaduc s'effondre, qu'un festival perd une subvention, c'est à cause des paradis fiscaux. » Voilà, je voudrais remercier tous mes invités aujourd'hui, Nicole Trudeau, Gérald Saint-Denis, Gilles Dupuis, mais aussi Joanne Fontaine. Je voudrais remercier très très fort Anne-Laure Janson et Martin Forgue, recherchiste. D'ailleurs, j'en profite, j'ai un petit peu de temps pour souhaiter la bienvenue à Martin Forgue qui va remplacer Anne-Laure Janson dans ses fonctions puisque celle-ci va bientôt être la maman d'un deuxième enfant. Ceci explique cela. Merci beaucoup à Jean-Sébastien Laliberté. Et puis merci à vous d'être là. Il me fait plaisir de vous présenter tous ces livres. Alors bonne semaine, bonne lecture et à la semaine prochaine.